mon chéri. C'est toi qui décideras.
J'ai toujours préféré le train des marchandises.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'entasser dans le même wagon? Moi, croire que tout le monde aime la même chose.
C'est l'empathie.
Et il y en a pour toutes les sensibilités.
C'est quoi l'empathie?
L'empathie. Pour le grand Robert, l'empathie est la capacité de s'identifier à autrui et de ressentir ce qu'il ressent. Pour Weed le char, c'est le processus de copenser qui permet de réaliser un effet d'empathie grâce à des mécanismes d'identification et d'inférence. Pour Lebovici, l'empathie serait un processus affectif préverbal, comme l'empathie mère-bébé. Et pour Freud, l'empathie relève d'un ensemble énergico-économique où la relation à l'autre est envisagée dans le but de décharge énergétique. On se mettrait à la place de l'autre tout simplement pour faciliter cette démarche.
Ah, oh, oh. L'écologie, c'est de l'empathie?
En quelque sorte, mais c'est aussi de la logique.
Vous avez entendu, Georges?
J'ai entendu.
En voiture, s'il vous plaît, en voiture, attention au départ!
C'est les allumeurs de réverbères.
Au sommaire ce mois-ci dans les allumeurs de réverbères, nous commencerons par un conte de Palestine intitulé « L'ami reconnaissant » de Praline Guépara aux éditions Cyrose 2011. Cet instant sera suivi par la rubrique « Texte historique ». Nous y entendrons le chant des canuts de Aristide Bruand, écrit en 1899. Viendra ensuite la rubrique « Environnement ». Nous partirons dans le jardin d'Anne-Laure où Yann nous parlera phytosociologie. Et pour clore l'émission, l'instant code du travail. Travail et conventions collectives, où nous entendrons les réglementations liées au télétravail. À tous, chers auditeurs, recevez ce vœu. Force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine. Bonne lumière à tous. Allez hop, c'est parti, vous écoutez les allumeurs de réverbères.
Les allumeurs de réverbères vous présentent l'instant qui compte.
Les allumeurs de réverbères.
L'ami reconnaissant. Présent dans les 7 crins magiques et autres contes de Palestine de Praline Guépara, édition Cyrose, collection Paroles de conteur, 2011.
Il était ou il n'était pas. Il était, il y a très longtemps de cela, deux frères commerçants qui vivaient heureux dans la même maison avec leur famille. Le premier avait une fille et le deuxième un garçon, deux enfants uniques. La petite fille et le petit garçon grandissent ensemble, jouent ensemble, dorment ensemble et s'entendent à merveille. Ils se promettent de se marier quand ils seront grands. Un jour, le père et la mère de la fillette viennent à mourir. Son oncle et sa tante prennent soin d'elle et la chérissent comme leur propre fille, jusqu'au jour où ils meurent à leur tour. Les deux enfants, devenus grands, vivent longtemps ensemble. Ils tiennent le commerce hérité de leurs parents. Ils le font prospérer et gagnent beaucoup d'argent. Ils vivent une vie douce et paisible, à l'abri des soucis, comme un frère et une sœur qui s'aiment tendrement. Un jour, le meilleur ami du jeune homme vient chez eux et tombe amoureux de la jeune fille. Il la demande en mariage. Le cousin demande l'avis de la jeune fille qui lui avoue son amour pour le prétendant. Le cousin accepte donc et ils célèbrent les noces. Quelques semaines plus tard, les jeunes mariés partent s'installer dans une autre ville. Le cousin, resté seul, se languit de sa cousine. Il est envahi par le chagrin. Il n'a plus goût à rien. Au fil des jours, il délaisse ses affaires. Il néglige sa maison et son apparence. Il perd toute sa fortune et ressemble bientôt à un mendiant, aux vêtements sales et usés. Une seule pensée l'obsède, la retrouver. Il quitte sa maison et prend la route. Il marche des jours entiers avant d'arriver à la ville où elle habite. Il demande à tous ceux qu'il croise où elle vit. Et au bout de quelques mois, il finit par la retrouver. Elle habite un palais magnifique. Un matin, le jeune homme prend son courage à deux mains et frappe à sa porte. Un serviteur lui ouvre et lui demande qui il est. « Je suis le cousin de madame. Préviens ton maître que je suis ici. » Le serviteur le laisse devant la porte et revient quelques minutes plus tard. « Mon maître t'interdit d'entrer » et il lui ferme la porte au nez. Le jeune homme est désespéré. « Je ne lui ai rien fait de mal. Il me chasse comme un voleur. » Il rumine son chagrin et sa déception longtemps. Il ne sait pas où aller. Il traîne ses pas et arrive au bord de la mer. Il marche sans but. Et soudain, il aperçoit deux hommes qui se disputent méchamment. Ils se battent et s'insultent. Ils les séparent. Quelle honte ! Pourquoi vous disputez-vous ainsi ? Les deux hommes continuent de s'invectiver.
Ce coffre est à moi !
Non, il est à moi !
Voleur ! C'est toi le voleur !
Le jeune homme ramasse une pierre et la jette au loin dans les vagues.
Celui qui m'apportera cette pierre le premier prendra le coffre.
Les deux hommes plongent dans les vagues. Quand ils sont loin, il prend le coffre et s'éloigne rapidement. Il arrive dans un endroit tranquille, à l'abri des regards. Il le pose par terre et l'ouvre. Le coffre est plein d'or. Il est heureux. Il regagne la ville qu'il vient de quitter, celle où sa cousine est installée. Et avec la fortune qu'il possède maintenant, il fait construire un palais majestueux et ouvre un commerce florissant. Ses affaires prospèrent. Un jour, une vieille femme entre dans son commerce. Elle est fatiguée et mal vêtue. Elle veut acheter une étoffe de soie, mais elle n'a pas de quoi la payer. Le jeune homme prend pitié d'elle et la lui offre. Elle le remercie et au moment de partir, elle a un malaise. Il confie le commerce à son employé pour la raccompagner chez elle. La vieille sourit.
« Je n'ai pas de maison. Je suis seule au monde. Si j'avais un fils, comme toi, je serais la plus heureuse des femmes. »
« Qu'à cela ne tienne, ma mère est morte. Viens donc habiter chez moi. Tu seras ma deuxième mère. »
Ainsi, la vieille femme s'installe chez lui et s'occupe de lui. Il l'aime comme un bon fils. Un soir, la vieille femme le voit pensif.
« Mon fils, tu devrais te marier. Les jeunes filles, belles et éduquées, ne manquent pas dans la ville. Je peux faire la demande en mariage pour toi, comme si j'étais ta propre mère. »
« Mère, puisque tu en parles, « sache qu'une jeune fille est entrée il y a 3 semaines dans mon commerce. Elle est plus belle que la lune quand elle est pleine. Je n'ai pas osé lui parler. C'est elle que je voudrais épouser. Mais je n'avais jamais osé y penser sérieusement car je n'avais personne pour m'accompagner chez sa famille pour demander sa main. »
La vieille transmet la demande à la famille de la jeune fille. La belle est ravie. Le jeune homme lui avait tapé dans l'œil. Les noces sont célébrées. Et tous les habitants de la ville sont invités, 7 jours et 7 nuits de festivités et de réjouissances. Quand tous les convives sont partis, un seul homme reste assis dans un coin de la grande salle. Le jeune marié ne voit pas son visage, il s'approche de lui.
Monsieur, la fête est terminée. Les convives sont tous partis. L'inconnu se tourne vers lui. C'est le mari de sa cousine, celui qui avait un jour été son meilleur ami.
« Tu es prié de partir, » lui dit-il d'un ton vif.
« Je voulais te voir seule et t'assurer de mon amitié fidèle et éternelle. »«
Tu oses parler d'amitié fidèle ? Le jour où j'ai sonné à ta porte, tu m'as fait renvoyer comme un vagabond. Dehors !»«
Mon ami, je partirai, mais je te demande de m'écouter une dernière fois. » »« Mon ami, quand tu t'es présenté dans mon palais, tous les notables de la ville étaient chez moi. Je venais de parler de toi, en vantant tes qualités, ton honnêteté, ta réputation de meilleur commerçant du pays. Je les encourageais à faire appel à toi quand mon serviteur est venu t'annoncer. J'ai regardé par la fenêtre et je t'ai vu vêtu de haillons, les cheveux hirsutes, l'air hagard. J'ai craint qu'il ne te voie dans cet état. Ta réputation aurait été salie. Après leur départ, je t'ai cherché dans la ville pour tout expliquer, et je t'ai vu te diriger vers la mer. Les deux jeunes gens qui se disputaient le coffre sont mes frères. Ils ont suivi mes instructions pour te donner une chance de commencer une nouvelle vie. Tes affaires ont prospéré grâce à ton talent, mais tu étais seul. La vieille femme que tu as généreusement hébergée et qui a pris soin de toi est ma mère, et ta femme et ma sœur préférée. Un grand silence suit, et les deux amis tombent dans les bras l'un de l'autre. On dit que leur amitié a duré toute une vie, et une amitié comme celle-ci, ça n'a pas de prix.
Allumeur de réverbère.
Maman, maintenant.
Il a pas tort.
Il a même raison.
Bah oui, c'est la mode.
C'est la mode.
Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Il y a encore des gens qui savent parler normalement.
Où?
Venez voir, ils sont par là. On les appelle les constructeurs, les terrestres, les bons vivants.
Idéalistes, réalistes, positifs.
Aventuriers?
Des résistants, avec un grand R.
Oh. Et qu'est-ce qu'ils font?
Ils s'occupent des autres.
Allez, c'est parti, mes petits loups. C'est la pause campagne. On prend un grand bol d'air frais.
Les allumeurs de réverbères.
Le chant des canuts. Aristide Bruand, 1899. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grande l'Église,
Et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts. Nous sommes tout nus. Pour gouverner, il faut avoir manteau ou ruban en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteau ou ruban en sautoir. Nous en tissons pour vous, grands de la terre. Et nous, pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Mais notre règne arrivera, quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera, quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, et nous n'irons plus nus.
La rubrique environnement.
Les allumeurs de réverbères.
Bonjour, aujourd'hui on va parler de phytosociologie. Alors, qu'est-ce que c'est ? La phytosociologie, c'est l'étude des relations des plantes entre elles et avec leur milieu. Pour illustrer ça, il y a un livre qui a été sorti par Hans Wegener en 2000 qui s'appelle « Le poireau préfère les fraises » et qui met en lumière donc certains végétaux aiment bien s'associer, poussent mieux quand ils sont associés entre eux. Donc moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup passionné et donc je vais vous parler un petit peu de ça, des plantes et des interactions entre elles et avec leur milieu. Donc je me suis intéressé à un projet de Philippe Julve qui a lancé un projet qui s'appelle le projet Sophie. Donc c'est un monsieur qui partait dans les forêts, dans des différents environnements, faisait systématiquement des relevés statistiques de la flore. Et il remarquait qu'à côté d'un pissenlit, il y avait une silène, et qu'à côté, il y avait une bourrache. Donc il a fait comme ça des centaines et des centaines de relevés, des milliers. Donc suite à son décès, ces données ont été reprises par des universités qui ont mis en ligne, on peut accéder à ce projet, on renseigne un végétal, et on va avoir accès à une base de données. Dans 95% des cas, vous allez trouver à côté tel végétal et tel végétal. Donc ça nous donne un petit peu, pour un végétal, savoir quels sont ses compagnons, quoi. Les plantes compagnes, on appelle ça aussi dans le potager. Donc une source de données très intéressante. Donc moi je me suis intéressé à ça dans le cadre d'un projet en paysagisme, en fait, de comment intégrer ces données-là dans le paysage. Comment constituer un massif à partir de ça, c'est-à-dire qu'on part d'un végétal d'ornement et donc on va trouver la variété sauvage et on va s'intéresser à quels sont ses compagnons dans la nature et on va pouvoir ensuite refaire un massif en prenant en compte ces données pour avoir des végétaux d'ornement mais qui interagissent très bien entre eux. Donc en termes de phytosociologie, on va avoir des exemples concrets, par exemple le robinier faux acacia. Donc il y a des études qui ont été faites sur le robinier faux acacia, sur sa capacité à inhiber la croissance de certaines plantes qui poussent proche d'elle. C'est-à-dire qu'elle va, on appelle ça de la télétoxie, elle va envoyer via ses racines des substances qui vont inhiber la croissance des végétaux à proximité. Ils ont fait des essais avec le robinier. Des essais ont été effectués en prélevant de l'écorce de la plante et en la diluant dans de l'eau. Et on a ensuite arrosé trois végétaux différents, un témoin avec de l'eau normale, un autre avec une certaine concentration d'écorce de robinier, et puis un troisième avec une concentration supérieure. Et on voit bien que sur le témoin, ça pousse très bien, par exemple les tomates, ça pousse très bien. Et ensuite on va avoir, pour la partie qui ont été arrosées avec différents dosages d'écorce de robinier, et bien on va avoir effectivement une chute de la germination et de la croissance des végétaux qui est de l'ordre de, il y en a 80%, qui ne germe pas, quoi, comparé à l'échantillon test simplement arrosé avec de l'eau. Donc ça c'est un exemple concret. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme exemple concret en phytosociologie ? On peut parler également donc de la mycorhize. des interactions des végétaux via des champignons. C'est-à-dire qu'il y a des champignons qui se connectent à différents végétaux. Elle permet de les relier entre eux et donc de partager les ressources avec les différents végétaux ensemble. Donc ça, on appelle ça les mycorhizes, des champignons mycorhiziens. Il faut savoir qu'il y a trois types globalement de types de champignons. Il y a des champignons qui sont parasites, qui vont effectivement manger du bois vivant. Des champignons qui vont être très utiles, c'est les champignons saprophytes, qui vont venir dégrader la matière végétale, tout ce qui est mort. Et on va avoir ces champignons, les mycorhiziens. Donc, le champignon pénètre la racine de la plante, rentre dans ses cellules sans lui faire de dommages. Au contraire, il y aura un échange, puisque les plantes, il y a certains nutriments qu'elles n'arrivent pas à le récupérer dans le sol directement, alors que le champignon, il peut faire ce travail, et donc il va venir donner certains éléments minéraux à la plante, et la plante en échange, elle va lui donner environ 20% de son sucre, des sucres qu'elle produit via sa sève. Donc on a vraiment un échange entre les végétaux. Deux végétaux qui ne sont pas forcément connectés entre eux directement vont se retrouver via certains champignons qu'on appelle donc les champignons mycorhiziens. Ces champignons mycorhiziens, vous les connaissez sans doute, puisque la majorité des champignons mycorhiziens produisent des carpophores, donc c'est ce qu'on voit en fait, la partie visible du champignon. On appelle un champignon, mais simplement le fruit, hein, en fait, elle est en train de se reproduire, en train de produire du mycélium, des spores de champignons. Donc c'est cette partie-là, donc ce qu'on voit, les bolets, les cèpes, les coulemelles, ce sont des champignons mycorhiziens qui vivent en interaction directe avec les plantes. C'est pour ça qu'on va les retrouver en particulier dans certains milieux. On sait que les coulemelles apprécient les châtaigniers, donc si vous avez une forêt de châtaigniers, il est fort probable que vous retrouvez avec des coulemelles qui sont là en interaction avec les racines des châtaigniers. Un autre exemple en termes de phytosociologie, c'est un exemple que j'ai constaté ici au jardin. C'est un, bah justement, on parlait des châtaigniers, donc c'est un châtaignier qui ne produisait jamais de fruits. À chaque fois qu'il commençait à produire ses bourgeons pour les bourgeons floraux, eh bien, je remarquais qu'ils étaient atrophiés. Quand j'ai cherché un peu plus, j'ai trouvé que c'était lié à un insecte qui s'appelle le snips. C'est une petite guêpe en gros qui vient pondre dans le bourgeon et pond sa larve. Et donc cette larve, ça crée une gale, mais ça déforme la fleur. Et donc, d'une part, on peut remarquer que le châtaignier, la floraison, elle ne sent vraiment pas bon quand il est attaqué par ce petit parasite. Et donc j'ai cherché comment on pourrait régler ça, mais sans utiliser de produits ou quoi que ce soit, simplement en se fiant à la phytosociologie. Donc je suis allé dans une forêt de châtaigniers et j'ai remarqué que sous beaucoup de châtaigniers, il y avait une plante qu'on appelle le fragon petit houx. C'est un petit arbuste d'un mètre 20 qui fait des petits fruits rouges et les feuilles sont piquantes. Et donc je me suis dit, bon, j'irai prélever un échantillon de cette plante et que j'ai planté au pied de mon châtaignier. Et j'ai constaté que l'année d'après, eh bien, il n'y avait plus de snips. La floraison a pu se dérouler normalement et on a eu des châtaignes. On peut en déduire que le fragon petit houx doit sans doute, soit directement ou indirectement, donner des éléments au châtaignier pour le permettre de se protéger et de se défendre contre cette guêpe qui vient le parasiter ses bourgeons floraux. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté chez moi. Il faudrait faire une étude à grande échelle pour vraiment conclure si oui ou non ce cas précis est véridique. Mais on a là plusieurs exemples de la phytosociologie. On a un autre exemple, c'est le noyer. Le noyer, c'est un arbre qui va produire une substance qu'on appelle la jouglone. Et donc cette jouglone, elle va venir inhiber, pareil, la croissance de certains végétaux. On dit que sous un noyer, rien ne pousse. En réalité, si on se fie au relevé de Philippe Jules, on constate que si, il y a comme des végétaux qui poussent sous les noyers. Mais pour un potager, par exemple, ça va être assez nocif. On va avoir des végétaux. Si on les a plantés, bah, ils vont végéter un petit peu, ils vont avoir du mal à pousser. Et donc, ceci à cause de cette substance qu'on appelle la jouglone. Pour un exemple à l'inverse, plutôt une association positive, je reviens sur le livre de Hans Wagner, Le poireau préfère les fraises, et ça j'ai pu le constater effectivement dans le jardin. On a constaté déjà de base que dans la partie fraisier, on avait des variétés sauvages d'aliacées qui poussaient, donc on y a intégré les poireaux, et effectivement on a des poireaux qui poussent très bien. Pour comparer à des poireaux qui sont à côté, qui sont pas en interaction avec les fraisiers, eux ont été attaqués par la mouche du poireau, alors que ceux qui sont avec les fraisiers, non. Donc on a un exemple concret d'association bénéfique de végétaux entre eux. Et donc je pense que c'est intéressant, c'est important de le prendre en compte, que ce soit dans un jardin, dans un côté paysagiste, mais également dans un potager pour produire des fruits et des légumes.
Les allumeurs de réverbères vous présentent l'instant code du travail et convention collective.
C'est les allumeurs de réverbères.
Télétravail, version en vigueur au 6 février 2024. Article L1222-9. 1. Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent 1. Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou à défaut dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique s'il existe. En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l'article L5212-13 ou un salarié aidant d'un enfant, d'un parent ou d'un proche, l'employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus. 2. L'accord collectif applicable ou à défaut la charte élaborée par l'employeur précise, petit 1, les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L2223-1 du Code de l'environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail. Petit 2, les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail. Petit 3, les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail. Petit 4, la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié. Petit 5, les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail en application des mesures prévues à l'article L5213-6. Petit 6, les modalités d'accès des salariés enceintes à une organisation en télétravail. Petit 7, les modalités d'accès des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche à une organisation en télétravail. 3. Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par cet accord collectif ou à défaut par la charte, motive sa réponse. Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail. L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L411-1 du Code de la Sécurité sociale. Article L1222-10. Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l'employeur est tenu à l'égard du salarié en télétravail, petit 1, d'informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions. Petit 2, de lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature. Petit 3, d'organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail. Article L1222-11, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menaces d'épidémie ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Conformément à l'article 40-12 de l'ordonnance numéro 2017-1387 du 22 septembre 2017, tous les salariés dont le contrat de travail conclu antérieurement à la dite ordonnance contient des stipulations relatives au télétravail sauf refus du salarié, les stipulations et dispositions de l'accord ou de la charte mentionnées à l'article L1222-9 du Code du travail issu de la dite ordonnance se substituent, s'il y a lieu, aux clauses du contrat de travail contraires ou incompatibles. Le salarié fait connaître son refus à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'accord ou la charte a été communiqué dans l'entreprise. Pour plus d'informations, rendez-vous à la section 4 du chapitre 2 du titre 2 du livre 2 de la première partie de la partie législative du Code du travail.
Bravo, le Code du travail, bravo!
C'est beau ça, maman, hein?
Oh oui, une belle avancée.
On appelle ça le progrès.
Et comme disait Monsieur Ambroise Croizat, le progrès est une création continue.
Nous arrivons au terme de cette émission. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Allumeurs de Réverbère. D'ici là, vous pouvez réécouter les épisodes précédents sur le site internet allumeurs-de-reverbère.fr, sur le site de l'autre radio et sur les réseaux sociaux @lesallumeursdereverbère. Cette émission a été réalisée par Myriam Samour avec la participation de Yann, habillage musical par Happy London Call. Nous vous souhaitons force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine.